Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, comme chaque semaine, on va survoler la paracha de notre semaine. C'est ce texte que nous lisons dans nos communautés. Et on arrive à un chapitre bien connu qui s'appelle Korach. Korach, c'est un homme qui a contesté Moshe Rabbeinu, et d'après ce que j'ai cru comprendre, il dit énormément de choses qui finalement sont vraies, mais juste elles ne marchent pas. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait regarder les choses. Et donc, comme d'habitude, les textes de la Torah sont très profonds et très énigmatiques, et on a du mal à saisir sans l'éclairage donc, et sans la réflexion des érudits. Qu'est-ce que vous inspire Korach et son histoire?
C'est vrai que l'histoire de Korach, elle est complexe, elle est passionnante. C'est tout l'enjeu de la machloket, de la dispute, de la discorde. Évidemment, nos maîtres en parlent beaucoup. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir quel est le point de départ au fond. Korach va avoir envie de, j'ai envie de dire, de déboulonner Moshe. D'accord, c'est-à-dire, au-delà de son désir de prendre le pouvoir, je veux être le calife à la place du calife, le vizir à la place du vizir. Mais il y a une stratégie en deux temps, on aurait dit aujourd'hui, c'est-à-dire invalider Moshe, et puis après, à ce moment-là, lui-même se retrouver au pouvoir. Donc il faut d'abord détruire, mais ce n'est pas simple. Comment est-ce que vous faites à un moment pour invalider Moshe? Comment vous y arrivez? Alors, il y arrive à travers, au fond, une démarche qui est très intéressante, puisque on connaît tous ce texte des Chachamim, dans lequel on dit que Korach va chez Moshe avec toute son équipe autour de lui, et dit à Moshe, dis-moi, le talit, on est d'accord que le but du talit, c'est quoi? C'est, avec les tzitzit, de se rappeler des commandements, de se rappeler du créateur de l'univers. Et on sait que les tzitzit, il doit y avoir normalement un fil bleu-azur. Et ce fil bleu-azur, disent nos maîtres, eh bien, quand on le voit, il nous rappelle la couleur de l'océan dans lequel se reflète le ciel, et le ciel qui nous renvoie, l'océan, le ciel, l'immensité de l'univers, et donc le créateur de l'univers. Et Korach dit, bon, ben, si maintenant tout ton habit à quatre coins est fait en bleu azur, as-tu besoin de mettre des tzitzit? Et Moshe lui dit, oui, enfin des tzitzit, pardonnez-moi, le fil bleu azur. Et il dit, ben oui, bien sûr qu'il faut. Et Korach pose une seconde question, il dit, dans une maison dans laquelle il y aurait des téphilines, des sefer Torah, remplis, pleins, est-ce qu'on aurait besoin de mettre une mezouza? Et Moshe répond, eh bien oui. Et là, évidemment, Korach commence à se moquer, à rire. Et quelque part, qu'est-ce qu'il dit? Mais attends, je ne comprends pas. Si le but du tzitzit bleu azur, c'est cette symbolique qui nous rappelle l'océan plus le ciel plus le créateur, ben évidemment que si l'habit est en bleu azur, ça suffit. De la même manière, si c'est pour se rappeler de la présence du créateur lorsque l'on rentre et que l'on sort de chez soi, si dès le moment où on rentre ou on sort, on rencontre un Sefer Torah, pas la peine de mettre une mezouza. Et qu'on le veuille ou pas, l'argument est intéressant. Au fond, si demain, vous proposiez ça à quelqu'un dans la rue, vous dites, voilà, il faut un fil bleu azur parce que ça vous rappelle le ciel, etc. Mais si votre habit est bleu azur, il dira, bon, ben, ça suffit. Et c'est vrai, la logique est avec Korach. Et au fond, qu'est-ce que Korach est en train de faire ici? Il est en train de dire, au fond, regardez, Moshe, on aurait dit aujourd'hui, c'est un religieux obscurantiste, c'est-à-dire, oui, bien sûr qu'il faut pratiquer la Torah et les mitzvot, mais dans la mesure où certaines mitzvot sont là pour nous renvoyer une dimension conceptuelle à des notions que l'on peut trouver autrement, eh bien, on peut le faire autrement. Pourquoi être obligé de passer par l'acte de la mitzvot telle qu'elle? Et n'oublions pas qu'en vérité, justement, c'est là tout l'enjeu. Les maîtres de la tradition mystique nous expliquent et nous disent que il faut savoir que c'est parce que je fais la mitzvah, parce que je fais le commandement, en tant qu'être soumis à Dieu, que celui-ci a un impact. D'ailleurs, si je peux me permettre de le dire en souriant, les gens qui sont au bord de la mer ne sont pas nécessairement les plus proches du créateur de l'univers. Et donc, pourtant, ils sont face à la mer qui les renvoie au ciel, qui les renvoie au Créateur. Et ça, c'est ce que Moshe est en train de dire. Moshe dit, mais non, mais je suis bien d'accord que si tu réfléchis dans les symboliques, tu n'as peut-être pas tort, mais Dieu nous a dit qu'il faut le mettre. Et ce qui est important ici, c'est la soumission au Créateur à travers le fait que l'on fasse exactement ce qu'il nous a dit. Mais Korach donc utilise cette technique de la leitzanout, c'est-à-dire de la moquerie. Il, au fond, veut créer une image de Moshe qui est celle de cette personne, voilà, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, qui réfléchit plus vraiment, qui se contente juste d'appliquer les choses comme on les lui a dites. Et donc, à partir de cela, évidemment, eh bien, Korach va voir lui le camp des railleurs, le camp des moqueurs, le camp des personnes qui, au fond, n'ont pas de problème à déboulonner l'image de celui qui était leur référence. Mais qu'est-ce qui se passe au fond? Pourquoi Korach se retrouve là-dedans? Parce que c'est bouleversant. Rappelons-nous que Korach est un homme brillantissime. Alors bien sûr, de nombreux textes de nos maîtres expliquent tout l'enjeu du désir du pouvoir. Le pouvoir, c'est lorsque justement je ne veux pas habiter ma propre histoire, alors je cherche à habiter une histoire autre que la mienne, parce que la mienne, je n'ai peut-être pas envie de la vivre. Et c'est sans fin, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Mais comment est-ce que Korach aurait pu, au fond, ne pas se retrouver là-dedans? Comment est-ce qu'il aurait pu s'extraire de cela? Alors, nos maîtres nous expliquent et nous disent que, en citant un verset, que, eh bien, pour certains, leur richesse va faire beaucoup de mal. Et qui on nomme comme exemple? Eh bien, il s'agit de Korach. En effet, Korach, rappelons-nous, est un homme extrêmement riche. Et donc, à partir de cette richesse, Korach, évidemment, se sent, on dirait, beaucoup plus à l'aise dans ses baskets, si on aurait pu dire ça de cette manière un peu légère, et il va chercher à aller vers ce pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette richesse? Qu'est-ce qu'elle représente au fond? Et qu'est-ce que Korach aurait dû en faire? Eh bien, cette richesse, c'est le monde de la matière, c'est le monde de la matière, n'est-ce pas? Or, la matière est là pour qu'on lui donne une forme. Vous savez que c'est une idée que le Maharal développe longuement, la notion du Chomer et de la Tsura, le matériel, la matière à qui on doit donner une forme. Et les deux éléments de la matière qui n'ont pas de forme, eh bien, c'est tout simplement l'eau et l'air. L'eau et l'air n'ont aucune forme en tant que telles, et c'est à nous de leur donner une forme. Qui a donné ce symbole-là? Qui le transporte, le véhicule? Eh bien, le premier, évidemment, c'est Moshe, puisque Moshe min hamayim meshitihu, c'est celui qui est sauvé des eaux. Et donc, disent les Chachamim, Moshe est là pour donner à la matière, symbolisée donc par cette eau, une forme, c'est-à-dire donner un cadre, et ça passe à travers l'univers des mitzvot. C'est-à-dire que tout ce que l'on possède, tout ce que l'on a, est là pour pouvoir être utilisé par rapport au Créateur et non pas par rapport à ses propres ambitions, par rapport à ses propres projets, par rapport à ses propres désirs. Et le Harizal nous fait remarquer la chose suivante. Le Harizal nous fait remarquer qu'il faut savoir que celui qui représentait la matière aussi en tant que telle, mais sous sa forme R, eh bien c'est un homme qui s'appelle Hevel, Hevel Abel, car en effet, Hevel Abel, qui a été tué par son frère Caïn, le mot Hevel signifie le souffle. Et l'âme de Abel s'est réincarnée dans celle de Moshe. Très intéressant, c'est-à-dire qu'on a en effet chez Moshe ces deux dimensions de la matière qui sont présentes et à qui il va donner une forme en transmettant justement l'utilisation que l'on doit faire de cette matière au niveau de l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. Seulement, et c'est ça qui est extraordinaire, vous savez que Moshe, c'est un mot de trois lettres. Et la valeur numérique du mot Moshe, vous ferez le calcul si vous voulez, c'est 345. Or, de manière assez surprenante, si vous faites la valeur numérique du mot Korach et vous rajoutez à cette valeur numérique celle du mot Hevel, Abel, vous obtenez aussi 345. Ça veut dire qu'au fond, qu'est-ce qui a manqué à Korach? C'est la dimension de Hevel. La dimension du souffle, traduction, se rappeler que le matériau qui est à sa disposition, il doit lui donner une forme, il doit faire de lui quelque chose. Il y a une finalité à cette richesse, elle n'est pas là pour le servir, mais elle est là pour lui permettre de créer et de construire quelque chose. Or ça justement, eh bien, Korach l'a oublié, s'il avait réussi à inscrire ce que symbolise Hevel, c'est-à-dire ce chomer, cette matérialité à laquelle il faut donner une forme, alors il ne se serait pas tourné vers son propre désir de pouvoir et de puissance, mais au contraire, aurait pu atteindre le niveau de Moshe, aurait pu en effet remplir un rôle exceptionnel au niveau du peuple juif. Alors oui, bien sûr, il va en remplir un rôle, à travers l'exemple qu'il donne de ce qu'il ne faut pas faire, à travers le fait que, eh bien, il nous rappelle le danger de la machloquette, le danger du conflit, à travers le fait qu'il nous rappelle que, eh bien, ce que l'on possède peut se retourner contre nous si à un moment on ne sait pas qu'en faire et si on voit dans ce que l'on possède seulement le support à nos propres désirs de pouvoir, de puissance et de tout ce qui va autour. Voilà un petit peu, j'ai envie de dire, quelques pistes de réflexion par rapport à cette paracha dans laquelle, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à explorer, mais voilà, on a entrouvert quelques portes.
Tout le monde dit, mais oui, mais les Juifs, le principe du judaïsme et des Juifs, c'est la discussion. Ce qui est vrai, apparemment. Poser des questions, discuter. Et Pierre Desproges disait, oui, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Et je parle, évidemment, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que dans la Mishnah, on dit, oui, mais ça dépend pourquoi tu discutes. Si c'est les Shem Shamaim, alors l'exemple, c'est Hillel et Shammai. Et si c'est pour des intérêts qui te sont personnels et que tu peut-être même caches dans ton cœur, peut-être même toi, tu n'en as pas conscience, alors c'est Korach et Moshe.
Non. Non. Eh bien là, justement, j'attendais.
Vous attendiez la faute, elle est venue.
Un tout petit détail près, c'est que la Mishnah nous dit, vous avez parfaitement bien cité la Mishnah, si ce n'est qu'on nous dit la dispute qui n'est pas dans le bon but, c'est celle de Korach et de son groupe, et on n'est pas Moshe en face.
Ah, pourquoi? C'est Korach et le Tav.
Très intéressant. Alors, il y a plusieurs lectures. La première, c'est que si vous, demain, vous voulez être en conflit avec moi, vous avez le droit, mais j'ai le droit, moi, de ne pas être en conflit avec vous. Première chose, Moshe ne cherche pas à être en conflit avec Korach. Korach décide de l'être. Donc, c'est son conflit à lui. Moshe ne rentre pas dedans. Ça, c'est la première lecture. Seconde lecture, c'est qu'en effet, on nous dit, sachez que le conflit, il est entre Korach et son groupe, il est déjà là. Parce que leur union, pardonnez-moi, n'est que factice. Ils ne se sont mis ensemble que pour déboulonner Moshe. Donc c'est une union de circonstances, de nécessité. Mais le jour où Moshe ne serait plus le dirigeant du peuple d'Israël, la marloquette, la tension, la discussion, la dispute, elle serait déjà entre eux. Pourquoi? Parce que maintenant que Moshe n'est plus, qui va prendre le pouvoir? Korach. Et vous avez immédiatement autour de lui ses acolytes qui auraient dit « Mais non, et pourquoi toi et pourquoi pas moi ?» Et qui va prendre le poste de tel ministère, de tel secrétariat d'État, etc. etc. C'est une leçon formidable. C'est que souvent, malheureusement, eh bien, on a l'impression que les gens se sont unis. Mais le but de leur union, c'est avant tout pour faire disparaître d'autres. Mais une fois qu'ils auront fait disparaître les autres, à ce moment-là, c'est entre eux que commencera à nouveau le conflit. C'est ça, entre autres, ce que ce texte est en train de nous dire.
Magnifique. Magnifique, superbe. Et merci d'avoir rectifié une erreur.
Je n'ai pas rectifié, au contraire, parce que la plupart du temps,
tout le monde se dit ça.
Oui, c'est entre Korach, mais quand vous regardez le texte, il y a marqué « Machloket Korach va adato ». Il n'y a pas marqué quelqu'un d'autre en face. C'est passionnant.
Ah oui. Ravi du Lemel, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Rav Mordechai, bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom au Mevorach.
Rav Mordechai, alors on poursuit avec vous notre réflexion sur Korach et sur les véritables intentions, les motivations qui l'ont poussé à cet acte dont on vient de parler. Et vous vous dites, il faut essayer de chercher vraiment les intentions parce que au-delà de la jalousie, dont on a beaucoup parlé, il y a aussi forcément d'autres ressorts. Et c'est donc sur ces autres intentions que vous voulez intervenir ce soir, peut-être celles dont on parle moins.
Ah oui, absolument, parce que la jalousie, c'est l'argument qui est invoqué, effectivement c'est celui qui apparaît en premier lieu, puisque Korach ne va pas obtenir la nomination qu'il recherche. Mais nos chachamim, nos sages, ont essayé d'aller encore plus loin. C'est déjà pas mal d'avoir pointé la jalousie, d'avoir planté ce sentiment de jalousie qui fait que Korach se comporte de manière indigne. Nos sages vont essayer d'aller un petit peu plus loin Ils vont nous faire découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire, et je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour nous aujourd'hui en 5783. En fait, Korach, à la manière, si vous voulez, des gens qui ont envie de faire valoir leur opinion, Korach ne peut pas rester seul. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des gens qui vont avec lui. Il y a à ça une motivation psychologique profonde, c'est que si je veux quelque chose, mais que je sais que je ne suis pas complètement 100%, comme on dirait, je ne suis pas complètement en paix avec moi-même. Je sais très bien que mon argument n'est pas un argument véritablement recevable. J'ai besoin, en quelque sorte, que mon problème devienne un problème public. Comme ça, si jamais je n'obtiens pas satisfaction, bah, on est nombreux à ne pas avoir obtenu satisfaction, et c'est plus confortable pour moi sur le plan psychologique. Et là, il y a un premier point. Le conflit entre Korach et Moshe Rabbeinu n'a pas commencé à ce moment-là. Il a commencé à la sortie d'Égypte. Vous savez que Korach appartenait à la tribu des Lévis. Or, les Lévis n'étaient pas des gens riches. Ils ne faisaient pas de business. Au moment où les Bnei Israël ont récupéré tout le butin de l'armée égyptienne, ou avant même cela, la sortie d'Égypte, où ils ont récupéré le butin des Égyptiens, eh bien, les Lévim, qui eux, la tribu de Lévi, qui eux, n'avaient pas participé à l'esclavage, n'avaient pas le droit à tous ces biens-là. Pourquoi? Parce que leur part, elle était dans le service d'Hachem, dans le service de Dieu, dans le tabernacle, dans le temple. Et donc, Moshe Rabbeinu, par exemple, lui, s'est intéressé à une seule chose, aller récupérer Yosef, le corps de Yosef, le cercueil de Yosef, qu'il va réussir à faire remonter du fond du Nil, et qu'il va prendre pour venir l'enterrer en Eretz Israël. Par contre, Korach, à ce moment-là, lui, arrive à mettre la main, parce qu'Hachem le lui montre, parce qu'Hachem emmène l'homme là où il a envie d'aller, arrive à mettre la main sur le trésor, le fabuleux trésor, emmagasiné par Yosef. Et donc, Korach, bien qu'étant Lévi, va devenir riche. Or, les Lévis n'étaient pas censés devenir riches. Et donc, à ce moment-là, se crée chez Korach, nous disent nos sages, un regard très malveillant et méprisant à l'égard de Moshe Rabbeinu. Étant donné qu'au moment de la sortie d'Égypte, il fallait s'occuper de prendre des biens chez les Égyptiens, et également au moment de sortir de la mer Rouge, pourquoi toi, Moshe Rabbeinu, tu essayes de faire encore des mitzvot? Et donc, à ce moment-là, se noue un conflit où, en fait, Korach méprise Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas à ta place de leader, tu ne fais pas ton travail de leader. Donc ça, c'est pour expliquer, finalement, le fait que Korach ne se sent pas complètement 100% dans son affaire. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, il y a chez l'homme quelque chose qui est littéralement insupportable, qui est la solitude, le sentiment de solitude. Et ça s'explique très bien. Quand on a demandé à Rabbi Akiva quel était le yesod, le fondement, le concept fondamental de la Torah, il a dit « Ve'avtal erer hakamocha ». Tu devras fonctionner, tu fais fonctionner ta capacité à aimer envers l'autre comme tu veux que ça fonctionne envers toi. Mais qu'est-ce qu'il a dit derrière tout ça? Il a dit tu es en relation avec l'autre. Ta neshama, elle est venue dans le monde pour être en relation avec l'autre. Tu es marié, tu as des enfants, tu vis dans une communauté, tu vis dans une collectivité, tu vis dans le monde, tu es en relation avec des gens, tu parles avec des gens, tu vis avec des gens. La chose la plus insupportable pour l'homme, c'est l'isolement. Quand un homme faute, on le met en prison, on l'isole. La chose la plus extraordinaire pour quelqu'un, c'est de partager ses joies, c'est de partager sa vie. C'est d'inviter des gens à sa table de Shabbat, c'est d'être invité, c'est de partager, c'est de vivre dans une collectivité. Qu'est-ce qui s'est passé pour Korach? Korach, il va ressentir la frustration de l'isolement. Un homme peut avoir des convictions, mais se sent seul. Et Korach, c'est quelqu'un qui vit dans cette solitude. À partir du moment où il voit qu'il n'est pas nommé au poste qu'il convoitait, il va ressentir l'isolement, il va ressentir qu'il n'est pas à sa place. On l'a isolé, on l'a mis à une autre place que la sienne dans la collectivité. Et là vient poindre derrière la jalousie quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a la jalousie, mais qu'est-ce que la jalousie exprime? Elle exprime le fait que je ne suis pas content de ce que l'autre a reçu parce que moi je veux le recevoir. Donc en vérité, comme je n'ai pas reçu ce que je dois recevoir, donc je ne suis pas à ma place dans la société. N'étant pas à ma place, je traduis ce déplacement par un isolement. C'est-à-dire que je ne reçois pas la place que je veux recevoir dans ce monde dans lequel je dois vivre ou je dois partager. Et donc je ressens la frustration de l'isolement. Et c'est ce que Korach, au fond de lui, va ressentir, c'est ce que nos sages nous disent au travers de la jalousie de Korach. Et donc Korach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes sortes de gens et il va venir. Qu'est-ce qu'il va dire, Korach? Il va dire, on est tous kadosh. Vous voyez, c'est très intéressant cette argumentation. Il ne va pas dire, pourquoi c'est toi, Moshe Rabbeinu, le chef? C'est moi qui dois être le chef. Moi, je dois être le chef d'Am Israël. Il ne va pas dire ça. Il va dire, tu vois, il y a 250 chefs de Sanhedrin. Il y a des milliers de Bnei Israël qui me suivent parce qu'en fait, On est tous kadosh. On fait tous partie d'une collectivité, et cette collectivité, elle n'est pas régie par tes règles à toi. Toi, tu veux qu'il y ait un roi, tu veux qu'il y ait un prophète, tu veux qu'il y ait des chefs, tu veux qu'il y ait une hiérarchie. Moi, je te dis, il n'y a pas d'hiérarchie. Au passage, il faut dire que si on avait suivi Korach, aujourd'hui, il n'y aurait plus de peuple juif. Parce que derrière cette argumentation de Korach, il y a cette argumentation qu'on voit peindre toujours chez les réformistes, qui est la Torah n'est pas de Dieu. La Torah peut être régie par les hommes. D'ailleurs, les rabbins ne sont que des hommes. Et donc, en vérité, il n'y a pas de Torah de Dieu à l'origine, et il n'y a pas d'explication multiple de la Torah. Il n'y a pas de diversité dans la Torah. Il n'y a pas de pluralisme dans la Torah. Chacun sa Torah. Et ça, c'était Korach aussi. On ferme la parenthèse. Et donc, le Korach HaNefesh, la force psychologique qui s'exprime ici, c'est finalement le refus de l'isolement. Et en fait, c'est lié à la neshama de chacun d'entre nous. Notre neshama, notre âme, notre partie divine, notre psychisme n'est pas fait pour la solitude. Il n'est pas fait pour ressentir de la solitude, pour ressentir du déplacement. Il est fait pour ressentir qu'on a une place, qu'on a une place, qu'on nous donne une place, qu'on s'accorde ou qu'on nous accorde une place dans la société. Et dès qu'on ressent ça, dès qu'on ressent ce manque, on peut littéralement devenir fou. Et donc Korach, effectivement, va partir en guerre contre Moshe Rabbeinu, ce qui, avec 3000 ans de recul, nous apparaît complètement fou, mais qui, si on se replace dans le contexte psychologique de Korach et de l'époque, peut s'expliquer, parce qu'un individu peut être littéralement aveuglé par la frustration et par la recherche des honneurs. La même chose pour Datan et Aviram. Datan et Aviram, c'est des gens qui se sont toujours opposés à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu va apparaître et dit « on sort d'Égypte », il dit « c'est faux ». T'as un faux messie, on doit rester ici 400 ans, ça fait seulement 210 ans qu'on est, on est là, enfin 209 ans, parce que les plaies ont duré un an. On doit rester 400 ans, t'es un faux messie. D'ailleurs, il y a une partie du peuple juif qui est sortie trop tôt, leurs corps aujourd'hui sont au sud des Eretz Israël, ils ont tous été tués, donc t'es un faux messie. Et même lorsque finalement il s'avère que la prophétie de Moshe Rabbeinu est vraie, de la sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï, jusqu'à la révélation sinaïtique, eh bien eux, ils vont rester arc-boutés à cette argumentation sur laquelle finalement Moshe Rabbeinu est un magicien. Ce qui nous montre à quel point, lorsqu'un individu s'enferme dans un système de pensée, il peut refuser de voir le réel et devenir littéralement choté, c'est-à-dire dévié du réel, comme dit le Maharal. Voilà ce qu'on peut dire au sujet des motivations profondes de Korach, et je pense que c'est quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Il y a tellement de machloktot, tellement d'affrontements, de divisions, ça peut être dans des communautés, ça peut être dans des familles, ici en Israël, on voit bien que les motivations parfois des uns et des autres obéissent assez profondément à cette idée que je ne supporte pas la frustration, l'isolement, et j'ai besoin de me faire ma place, de trouver ma place, quoi qu'il arrive, et ça peut rendre les gens complètement fous.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Shabbat Shalom à Jérusalem, et bonsoir à vous.
Voilà, Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors on continue avec notre paracha sur Korach. Évidemment, il faut évoquer la jalousie. Là, on ne peut pas ne pas parler de ce sujet. Et surtout, qu'en disent nos chachamim par rapport à un sentiment qui malheureusement est l'un des plus partagés au monde.
Exactement. Il suffit de lire Rashi au début de la paracha. Rashi demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à Korach? Korach était un homme de qualité. Il y a plusieurs preuves à cela. Alors comment ça se fait qu'il est tombé si bas? Eh bien Rashi répond, « Nitkana atznesi uto shalitzafam ben Uziel. » Il a été jaloux parce que Elitzafam ben Uziel a eu une nomination et il pensait qu'elle lui revenait à lui de droit parce qu'il était le fils d'un de frères de Kehat. Bref, sans rentrer dans les détails, il pensait que cette place lui revenait de droit, et il était donc jaloux de cet homme. Et la question, donc, c'est, on voit que cette jalousie a donné une catastrophe, et elle a été punie d'une façon exemplaire, puisque il va mourir d'une façon totalement incroyable. La terre va s'ouvrir, Hachem va changer les lois de la nature, et on nous dit que l'ouverture de la terre a déjà été mise en place pendant les 6 jours de la création. Donc il faut réfléchir sur cette mida, ce trait de caractère de la jalousie qui amène les hommes si bas. Alors, Rabbi Tzadok HaKohen dit qu'en fait, toute l'origine même de la faute d'Adam Harishon, elle a commencé par la jalousie. Laquelle? Tout simplement, le serpent, le Nahash, a vu Adam et Chava avoir une relation. À l'époque, ça se faisait pas d'une façon discrète, puisque il s'était avant la faute. Et il était jaloux de la beauté de Chava. Il voulait prendre Chava. Il voyait sa femme, il voyait Chava. Il était jaloux d'Adam qui avait une si belle femme. Et donc, comme il était jaloux d'Adam, il a voulu faire du mal à Chava. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire à Chava et également à Adam. Ensuite, Chava, elle est jalouse. Mais elle est jalouse de qui ? Ben, écoutez bien, Chava, elle se dit, si j'ai mangé le fruit et que je meurs, ben, qu'est-ce qu'il va faire Adam Arishon, mon mari ? Il va se remarier. Et avec qui il va se remarier ? Ben, ça, on ne sait pas, parce que tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas d'autre femme. Mais c'est sûr qu'il va se remarier avec quelqu'un. Et donc, elle est jalouse de la femme qui n'existe pas, mais avec laquelle son mari va se marier. Incroyable. Donc, elle va donner le fruit à son mari Adam pour qu'il meure lui aussi. Donc voilà, ça c'est l'origine même de l'histoire. On n'a pas besoin de parler de Caïn et Hevel, les deux frères. Donc Caïn a tué Hevel parce qu'il était jaloux. Jaloux du fait que Dieu avait accepté l'offrande de Hevel et pas la sienne. Et etc., etc. Je rentre pas dans tous les détails, mais la jalousie est permanente et dit même que c'est l'origine même de la faute originelle de Adam Arishon et de Chava. Donc en fait, c'est un sujet extrêmement important. La jalousie. Et d'ailleurs, ça va se résoudre par un homme et une femme. Un homme, c'est Aaron HaKohen, le grand prêtre. Aaron, il a toutes les raisons de devenir le leader d'Israël, le chef d'Israël. Il est resté en Égypte, mais déjà prophète. Il est le grand de la génération. Il est la personne la plus consultée après son père Amram. Et puis lui, il prend la succession. Et arrive tout d'un coup Moshe. Son petit frère, hein, Moshe c'est le petit frère d'Aaron, il a 3 ans de moins, et Moshe prend la direction du peuple juif alors que Moshe a un pédigré, un CV absolument catastrophique. Disons-le nous, quand Moshe, dans quel yeshiva entre guillemets Moshe était ? Il a grandi sur les genoux de Pharaon, il a été élevé par la fille de Pharaon. Pendant des années et des années, donc il a connu le palais de Pharaon. Ensuite, il est roi d'Éthiopie, il est poursuivi par la justice parce qu'il a tué un homme. Ensuite, il est berger et il arrive à 80 ans et il prend la place d'Aaron, enfin la place naturelle d'Aaron. Et Aaron, au lieu de lui en vouloir, au lieu d'être jaloux de la place que son frère lui prend, lui ravit, eh bien au contraire, il est ravi, en fait, il est heureux. Vesamar Belibo, il est joyeux dans son cœur. Et le sage nous dit, ce cœur qui est capable de se réjouir lorsque son propre frère prend sa place, ce cœur-là aura une récompense. Laquelle ? Il y aura sur ce cœur-là le Choshen Mishpat, c'est-à-dire le pectoral. Et le mot Choshen, c'est les mots Nahash, c'est la lettre Nahash que vous inversez, vous obtenez Choshen, Chet, Shin, Nun, Nahash ou Choshen. Choshen, c'est le pectoral, c'est-à-dire sur un cœur qui a chassé tout simplement ce sentiment de la jalousie. Et il y a une femme, Rachel, qui au lieu de revendiquer de prendre sa place naturelle, Yaakov l'aime, eh bien, elle efface tout ressentiment, elle laisse sa sœur, Léa, qui a priori n'est pas légitime, et elle dit, bon, je laisse ma place à ma sœur Léa. Encore une fois, un acte incroyable qui montre comment Rachel arrive à effacer toute jalousie de sa sœur. Donc on a ici deux personnages qui vainquent la jalousie. Mais par contre, Korach, lui, il tombe dedans. Et il faut effectivement se rendre compte de la gravité que représente cette mauvaise mida. D'ailleurs, la Mishnah, dans Pirkei Avot, nous dit qu'il y a 3 traits de caractère qui font « motzi'im et ha'adam min ha'olam », c'est le mot de la Mishnah, font sortir l'homme du monde. « Kin'ah », la jalousie, « ta'ava », la passion, et « kavod », la recherche des honneurs. Et c'est très intéressant parce que justement les parachiotes que nous sommes en train de lire, nous avons lu Behara Lotra, ça se termine par Kivrot Atava, c'est-à-dire les tombes liées au désir, ils ont désiré de la viande, ils ont demandé de la viande, donc c'est la Tava, le désir, la passion, et Kavod, la recherche des honneurs, c'était Parashat Shlach Lecha, où des explorateurs avaient peur de perdre leur place, et c'est pour cela qu'ils ont organisé cette révolte, et c'est pour ça que nous sommes toujours ici, pas encore libérés par le Mashiach, puisque cette faute. Donc on a ici 3 fautes, Kina, Tava, Kavod, dans les 3 parachiotes que nous sommes en train de lire. Mais Motsi'im et Adam ina'olam font sortir littéralement l'homme du monde. C'est quoi l'homme ? Alors il y a plusieurs explications. Et c'est quoi le monde ? C'est que tout simplement, lorsqu'un homme est pris de passion, est pris de jalousie, est pris de recherche d'honneur, il perd toute notion. Il peut sacrifier sa famille, sa femme, ses enfants, partir à Va aller avec une autre femme et perdre toutes ses repères. Il a une femme, il la quitte pour une autre femme. Il a une position dans la communauté. Évidemment, en faisant cet acte-là terrible, il le perd. Bref, il perd toutes ses prérogatives, tout son place, tout son monde, tout ce qui faisait son monde. Et il est prêt à tout lâcher par passion, par recherche d'honneur ou par jalousie. Alors, est-ce que la jalousie, c'est quelque chose qui est totalement à proscrire ? Non. Donc ça, je vous dis que la jalousie, c'est même écrit dans Corélette, le monde entier fonctionne grâce à la jalousie. Et la jalousie, elle a un côté positif. Elle existe, vous savez, chez qui, la jalousie ? Chez Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, il est jaloux, et on va l'expliquer tout de suite comment. Moshe Rabbeinu, il est à la fin de sa vie, et Dieu lui dit, Hachem lui dit, ça y est, Moshe, fais tes adieux, tu vas rendre l'âme. Et Moshe dit, non, Hachem, s'il te plaît, laisse-moi encore quelques jours, ou quelques semaines, quelques mois. Mais Hachem lui dit, c'est pas possible, tu peux pas, parce que c'est la place de Yehoshua, c'est Yehoshua maintenant qui doit prendre la relève, tu peux pas lui grignoter, lui enlever un petit peu de ses prérogatives, il a le droit, et c'est son tour. Alors Moshe dit, très bien, je vais me mettre de côté, et c'est Yehoshua qui va prendre ma place, mais moi je reste en vie, et je suis sur le côté, je n'agis plus comme chef d'Israël, c'est lui qui prend ma suite, il me succède. Mais à ce moment-là, évidemment, Hachem apparaît à Yehoshua, parce que c'est lui le leader d'Israël, mais pas à Moshe. Donc Moshe, une fois qu'il voit que Yehoshua a reçu un message de Dieu, il lui dit « Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit là ?» Et Yehoshua dit cette phrase à Moshe, il dit « Mais Moshe, je ne peux pas te le dire, c'est moi maintenant le leader, c'est plus toi. Donc je ne peux pas te donner la moindre information. » Et à ce moment-là, Moshe s'écrie, dit le Midrash, sans mort et pas une jalousie. C'est-à-dire, il comprend que c'est terrible de voir son élève prendre sa place. Il ressent de la jalousie, même Moshe Rabbeinu, et il dit, je préfère mourir 100 fois la mort, que une fois être jaloux de quelqu'un. Donc il accepte sa mort, il disparaît, parce qu'il a compris que ça y est, son temps était passé, et qu'il pouvait, il était impossible pour lui de rester à côté. Et donc on est étonné, Moshe Rabbeinu, il a des sentiments de jalousie, la réponse est oui, la jalousie existe chez tous les êtres humains, et elle est nécessaire, pas seulement nécessaire, indispensable. Indispensable pourquoi ? Dans quelle situation ? Alors je vais vous raconter une histoire. Un jour, un couple est venu voir le Rav Steinman, Zichron Alivracha. Ils lui ont posé la question suivante. Monsieur, il dit à madame, monsieur et madame viennent chez le Rav, et il te pose la question suivante. Monsieur, il dit, voilà, je voudrais changer de voiture, et j'aimerais m'acheter une voiture de très chère, une voiture très chère, très belle, très puissante, mais ma femme, elle ne veut pas. Alors, j'ai, Baruch HaShem, grâce à Dieu, les moyens, je donne la tzedaka, je soutiens la Torah, je donne beaucoup à des œuvres diverses et variées, donc je suis très généreux, mais bon, j'ai de l'argent, j'ai envie de me faire un petit plaisir, un petit kiff. Mais ma femme ne veut pas parce qu'elle dit, c'est vrai qu'on a les moyens, mais les gens vont dire, regarde la voiture d'un tel, ça va mettre l'œil, les gens vont nous envier, les gens vont être jaloux. Alors le Rav demande au monsieur, il dit, est-ce que tu connais le chasse ? Est-ce que tu connais toute la Gemara ? Il répond non. Est-ce que tu connais un traité parfaitement ? Il répond non. Est-ce que tu connais une sougia, un sujet parfaitement ? Il répond non, Rav. Alors il dit, pourquoi tu veux que les gens soient jaloux ? Pourquoi tu veux que les gens soient jaloux ? Alors, évidemment, lorsqu'on écoute cette histoire, on se dit, mais de quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire le Rav ? Le Rav, il veut dire qu'en fait, malheureusement, nous les êtres humains, on est un peu comme des grands enfants. Lorsqu'on voit les enfants se battre pour prendre la voiture, ah, il m'a donné sa voiture, non, c'est ma voiture, et on voit les enfants se battre sur des petits jouets, on se moque, on a les bons, c'est des enfants. Mais finalement, nous sommes des grands enfants. Et nous sommes en train de nous battre pour obtenir des moyens pour acheter quoi ? Acheter le mieux, mieux que notre voisin. On est des grands enfants en train de nous battre pour des biens matériels. Et comme lui a dit le Rav, il a fait comprendre le Rav, être jaloux pour des biens matériels, c'est être jaloux pour l'avoir, pour les possessions, et ça, franchement, ça n'a aucun sens. C'est de l'enfantillage. Un homme, il doit être jaloux, ce qu'on appelle kinat sofrim, une jalousie constructive, c'est quoi ? C'est être jaloux parce que l'autre, il a des connaissances que je n'ai pas, l'autre, il a des bonnes midotes que je n'ai pas, l'autre, il a la yirat shamayim que je n'ai pas, l'autre, il vient à la tfila tous les jours, moi, j'y vais pas, l'autre, il vient à l'heure, etc., etc. C'est-à-dire être jaloux de l'accession à une certaine forme de spiritualité. Et ça, c'est la véritable acquisition sur Terre. Et c'est de ça dont on peut être jaloux. Être jaloux d'une voiture, franchement, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, les hommes n'ont pas souvent toujours cette façon de voir les choses. Mais soyons lucides, tout simplement lucides. Dans la paracha, on voit un Korach qui avait vraiment un poste important. Il portait le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Et parce qu'il a été jaloux, il a perdu toute sa vie. Il a vraiment gâché sa vie. Et pas seulement la sienne. Il était un bon parleur. Il a entraîné 250 chefs de Sanhédrin, des gens importants. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il était jaloux. Mais pas la bonne jalousie. Pas la jalousie qui nous fait avancer. Pas la jalousie qui crée une émulation. La jalousie qui, au contraire, nous détruit. Alors, sachons simplement être jaloux sur les vrais sujets de la vie, les choses véritablement importantes. Et sachons nous mettre nous-mêmes, ça on a le droit, de nous mettre soumettre dans un endroit, dans une communauté, où les gens sont plus forts que nous, sont plus avancés que nous. Dans quel but ? De se dire, si je suis là-bas, je vais avancer. Je ne serai pas le meilleur, je serai pas le... Il ne faut pas être à la tête des lions, à la tête des renards, il faut mettre à la queue des lions. C'est-à-dire être toujours dans une recherche de l'absolu, de se dire on peut toujours aller plus loin. Et pour y arriver plus loin, on a besoin de cette émulation positive. Voilà ce que je voulais ici partager avec vous. Et vous souhaitez à tous Shabbat Shalom et qu'Hachem nous protège de la jalousie destructive, mais au contraire, nous donne la jalousie constructive qui nous fait avancer de l'avant, qui nous fait avancer, qui nous fait progresser dans la vie.
Amen. Amen. Dans la jalousie, on pourrait aussi évoquer de l'étude. Quand on voit quelqu'un qui est très fort, on dit, il est vraiment...
Exactement.
Et ça peut être, la compétition peut des fois aussi être positive. On m'a appris un très bel enseignement sur Adam et Ève. Et pourquoi Adam et Ève, on l'a payé donc de la fin du paradis. Hein. On est tous sur Terre. Et hop, tout le monde s'en va. Les générations entières ne sont plus au paradis à cause de cette faute. Et c'est Rav Eliyahu Uzan qui m'a donné cet enseignement il y a longtemps. Il m'a dit, je vais te dire pourquoi. Parce que quand Hachem demande à Adam où tu es, ce qui veut dire qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Et il dit, c'est pas moi, c'est elle. Il répond, Adam répond, c'est elle qui me l'a donné. Alors que s'il avait dit, je sais pas, je m'excuse, on pourrait imaginer toutes sortes de réponses. Mais le fait qu'il dise, c'est pas moi, c'est elle qui me l'a donné, terminé. Tout le monde fait les valises, quitte le paradis. Il est beau cet enseignement, non ?
Tout à fait. Effectivement, on a l'habitude de rejeter la faute sur les autres, en particulier sur notre épouse. Mais ça a commencé avec Adam Arishon. Adam Arishon, effectivement, comme vous dites, il a commencé. C'est lui qui nous a donné malheureusement le mauvais exemple. En plus, Adam Arishon, c'est lui qui a voulu avoir Chava, parce qu'il n'avait pas de compagne. Ah, il a demandé à Hachem. Hachem a dit, attends, je t'ai offert, je t'ai donné une femme, et maintenant que je t'ai donné, il dit, ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui a...
C'est de sa faute. C'est pas moi, c'est elle qui me l'a donnée. Allez, hop, tout le monde s'en va. On reviendra dans 5000 ans.
Voilà.
Rav Gué, merci. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré.